Chers amis, bienvenue à l'écoute d'un nouveau passage de la vie de Saint François. Une grotte sauvage, au sommet d'un mont hargneux, et à côté, un torrent redoutable. Dans cette grotte s'est retiré François avec frère Léon et frère Bonisio pour réécrire la règle. Cela était venu tout d'un coup. Après encore un été et un hiver d'errance attristée, il était revenu à la Portioncule, où il était resté couché, priant sans cesse au milieu d'horribles douleurs. Il eut là un songe étrange. À perte de vue, la contrée était couverte de frères affamés. Pour les satisfaire tous, il ramassait par terre des miettes de pain et en donnait une à chacun. Le moyen d'apaiser sa faim avec une seule miette, il était au désespoir. Alors une voix céleste cria dans son rêve : « De toutes ces miettes, fais une hostie et donne-en un peu à ceux qui en désirent. » Il fit une hostie, et tous ceux qui en mangèrent en furent bien nourris. Ceux qui n'en voulurent point ou la recrachèrent furent frappés soudain de la lèpre. Le lendemain, il trouva le sens de cette vision. Les miettes sont les paroles de l'Évangile. L'hostie est la règle, la lèpre le péché. Refais la règle. Quand Dieu parle, rien ne peut retenir François. Et le voici en route avec les deux frères, vers les grottes de Fontecolombo. Il est secret, taciturne, grave, de fer. « Vous et moi, » dit-il à Dieu, « c'est entre eux deux que la règle va s'élaborer. Le Dieu éternel qui se cache dans la lumière de myriades d'astres. Dans la profondeur de ce trou obscur, François est étendu à terre, guettant de toute son âme ce que Dieu va lui inspirer. » Plus près de la sortie, frère Bonisio écoute. Léon tient devant lui le parchemin ouvert sur un bloc de rocher et il écrit ce que Bonisio répète après François. Ainsi, du fond des ténèbres, la règle nouvelle rampe vers la lumière du jour. Tous les trois, ils attendent. L'un attend Dieu, l'autre François, le troisième Bonisio. De temps en temps, une phrase. Parfois des heures de silence, des jours de silence. La nuit, c'est la paix du sommeil. La nuit, des gens charitables montent de la vallée déposer avec précaution la nourriture à l'entrée de la grotte. Ainsi se refait la règle et c'est toujours le refrain de la pauvreté qui retentit. Des frères qui voyagent par le monde ne peuvent emporter ni sac, ni argent, ni pain. Tel le noyau, l'âme de la règle. Des jours et des nuits passent en toute solitude et silence. Solitude de pierre, silence infini où bruit l'éternelle et sombre clameur du torrent. Des nuées d'orage passent et des éclairs. La terre disparaît dans une rumeur de pluie. Les rochers sonnent sous les ouragans, puis ils se dressent de nouveau ruisselants de soleil. Mystérieusement, le grand esprit plane sur l'âme de François. Celui-ci rentre à la Portioncule, les yeux pleins d'un feu étrange. Élie courut à sa rencontre pour lui laver les pieds et lui fit servir une coupe au miel. Élie a toujours pour le corps de François des soins maternels. Que n'en a-t-il pour l'âme du pauvre saint ? Celui-ci eut hâte de lui remettre la règle nouvelle. Il donna les petits rouleaux de parchemin avec tendresse et sainte prudence comme une annonciation. Comme l'ange porta le divin message à Marie. « Bien, bien, coupa Élie, je lirai tout cela et j'en parlerai avec les ministres. » Et il glissa négligemment les parchemins sacrés entre sa cordelière. « C'est la règle telle que Dieu me l'a dictée, » avertit François. Élie eut un sourire agaçant. « Venez, » dit-il, « que j'étende sur vos yeux cet excellent onguent. Je l'ai composé moi-même pour vous. Vos yeux sont comme de la chair labourée. » Les yeux, voilà qui avait de l'importance. La règle, point. François se défendit. « Je veux que vous vous laissiez oindre les yeux, » lui dit Élie, « au nom de la sainte obéissance. » Alors François se laissa faire. « Brave Élie, » dit-il. Les jours passèrent, pleins de soleil, les nuits, pleines de lune et d'étoiles, lumière jour et nuit. Le saint avait un fougueux désir de la lumière, symbole de Dieu, mais ses yeux souffrants ne supportaient pas le soleil. Malgré le capuchon profondément enfoncé sur sa tête, il tenait encore la main devant les yeux. La lumière taillait des blessures dans son cerveau. Après le coucher du soleil seulement, ses yeux sanglants y voyaient dans la pénombre du jour éteint, ou à la lueur des étoiles et de la lune. La nuit, il se promenait dans le bois. Le silence brillait. Il caressait un arbre éclaboussé d'une tache de lune, et il se penchait sur les fleurs blanches endormies dans la laiteuse lueur. « Ma sœur la lune !» murmurait-il ravi. Il voyait la lune sur ses mains et s'agenouillait dans l'herbe. « Merci, Seigneur, pour notre sœur la lune !» dont vous illuminez les ténèbres. Il voyait jouer les lapins, il entendait les cigales et une grenouille qui coassait dans une mare. Il sentait travailler la mystérieuse germination des choses. Et quand à l'Orient, le soleil se levait parmi des couleurs angéliques, le capuchon recouvrait la tête et la main abritait les yeux. « Merci, Seigneur, pour notre frère Messire le soleil, que jamais plus je ne pourrai contempler. Mais cela n'a pas d'importance, car ce n'est pas pour moi seul que vous l'avez créé. » Élie lui apporte de nouveau une petite surprise. Dans une écuelle, des fraises toutes fraîches qu'il accueillit lui-même. Élie ferait tout pour lui, rien n'est trop bon. François attend depuis longtemps des nouvelles de la règle. Il espérait qu'Élie accourait enthousiaste, criant « Remercions Dieu pour cette règle !» Mais Élie ne disait rien. Il apportait des fruits, des onguents, des médecines, pour la rate, pour l'estomac, et le foie. De la règle, pas un mot. Tout à coup, François saisit le poignet d'Élie. « Père Élie, comment trouvez-vous la règle ?»« Les ministres, ceux auxquels j'en ai déjà parlé, ne la trouvent pas bonne. C'est toujours la même chose en d'autres mots. »« Pas bonne ? Et elle vient de Dieu même. Là-haut, dans la sombre grotte, Dieu me l'a dictée. Élie, donnez-moi la règle. » « Montrez-moi une phrase qui ne soit pas inspirée de Dieu. » Élie continuait de le regarder avec son sourire tordu. « Qu'y a-t-il ? » cria François de plus en plus excité. Élie n'aimait pas le bruit. François, mon cher père. J'aurais dû vous le dire depuis longtemps. Je n'osais pas, je voulais ménager votre santé. » Il n'osa pas le regarder. Les fraises tombaient de l'écuelle. La règle est perdue. Perdue par quelque négligence, je ne sais comment. Hélas, gémit François. Il ne put en dire davantage. Les lèvres violettes s'ouvraient, mais pas un mot ne sortit. Élie leva les yeux, il vit ses grands yeux sanglants, chair ulcéreuse. Il n'y vit ni reproche, ni accusation. Rien qu'une immense tristesse. Il laissa choir l'écuelle. Alors François s'affala comme brisé. Frère Léon eut juste le temps de le saisir. « Vite, du vinaigre !» cria Élie de la porte. « Frère François se pâme !» Comme on ne venait pas assez vite, il alla en chercher lui-même. Frère Genièvre apporta le vinaigre, mais Élie ne revint pas. François, avec frère Léon et frère Bonisio, est remonté à la grotte de Fontécolombe pour réécrire la règle. Ils ont fui à l'insu de tous. François ne demande pas une seconde fois la dictée de Dieu. Ce serait manquer de respect. On tâchera de se rappeler tout. Ce que l'un ne sait plus, l'autre le saura. Un chant qui vous a traversé le cœur ne s'oublie point. Ils sont assis tous trois, côte à côte, et frère Léon écrit. Il y a une lacune, ça et là, un trou. Alors ils réfléchissent ou prient en silence pendant des heures. Miette à miette, la règle perdue se recompose comme en rang file un collier de perles égrenées. Sur ces entrefaites, l'hiver est venu. Novembre s'abattit avec des pluies, des brouillards, des vents mauvais. Le torrent de la montagne s'enflait, semblait secouer le roc. La nuit, le vent cognait contre les rochers et glissait en hurlant vers les sommets, brisait les arbres qui craquaient. Et un jour que le monde gisait englouti dans une brume épaisse, ils étaient de nouveau assis à l'entrée de la grotte, travaillant. Brusque et inattendu, comme des bêtes de cauchemar surgies de la brume, tout un groupe de frères se dressa devant eux. Les intrus rejetèrent leurs capuchons. C'étaient les ministres. Élie en tête, ils venaient tels des loups barrant l'entrée. François se dressa vivement. « Que venez-vous faire ici ?» Élie s'avança d'un pas et le regarda d'un air dominateur. « Enfin, nous vous avons trouvé. C'était donc vrai ce que nous pensions. Vous êtes en train de rédiger de nouveau la règle perdue. Et je vous dis, moi, au nom des ministres et des milliers de moines, que nous ne l'observerons pas. Une règle pareille, vous pouvez l'écrire pour vous, non pour nous. » François frémit d'indignation. Et avec des gestes violents, il s'adressa à Élie qui souriait toujours. « Cette règle vient de Dieu. Il ne s'y trouve rien qui soit de moi. Dieu veut qu'elle soit observée à la lettre. À la lettre, entendez-vous? Sans commentaire, sans interprétation. Qui ne veut pas l'observer s'en aille. » Il se dressait, frémissant, sur la pointe des pieds et les regardait dans le blanc des yeux, un à un, de son terrible regard saignant. Et comme l'herbe tombe sous la faucille, leurs yeux se baissaient sous la force ardente de ce regard qui ne craignait personne, pas même Satan. Élie fit un geste, il allait parler, mais comme mordu par un aiguillon, François bondit vers lui. « Sans explication, qui n'en veut pas peut partir !» Il s'avança menaçant vers eux, et pas à pas, ils reculèrent, domptés par la volonté qui brûlait dans ses yeux rouges. « Venez, » dit Élie au frère. Il tourna le dos et partit. Les autres suivirent et disparurent brusquement dans le brouillard. François demeura, regardant la place par où ils étaient repartis. De sa main gauche, il se cramponnait à un pain brisé. Il était là, sauvage, véhément, grand sur le fond brumeux, comme le gardien de Dieu grondant d'un feu sombre. « Le Saint-Ange Michel !» chuchota Léon à Bonisio. Thank you. François est allé lui-même porter sa règle à Rome. Ils étaient trois. Lui, Léon et un agneau égaré qu'ils avaient trouvé en route. Frère Léon portait l'agneau comme un enfant, dans ses bras, et François aussi le portait parfois, mais il était très vite fatigué. « Pauvre petit agneau, mon frère, lui dit-il en caressant sa laine bouclée, je t'amènerai là où on t'aimera bien. » Et en chemin, il mendiait pour lui du lait. À Rome, ils le portèrent chez Dame Frère Jacqueline, qui en fut très heureuse, et elle promit de filer la laine afin d'en faire une bure pour François. Le lendemain, François fut l'hôte du cardinal. L'heure du souper était venue. Il y avait une table bien servie, et divers nobles et personnages importants y avaient pris place pour entendre François. Celui-ci ne descendait point. On se mit donc à table sans l'attendre. Tout à coup, il entra en dansant, portant sur le dos une besace presque vide. Il alla s'asseoir à sa place, à côté du cardinal. Il vida sur son assiette la petite balle et il n'en tomba que du pain, vieux croûtons et tartines durcies qu'il était allé en toute hâte mendier de porte en porte. Il fit dessus un signe de croix et s'empressa, joyeux et vif, autour de la table. « Le pain de charité, » dit-il, en déposant un morceau sur chaque assiette. Et revenu à sa place, il se mit à manger son propre morceau comme si c'eût été de la brioche. Ses grands seigneurs se regardèrent pour savoir ce qu'ils feraient. D'aucuns se trouvaient heureux de recevoir de ce pain et ils en mangèrent avec respect. D'autres le mirent en poche comme une relique. Quelques-uns le mirent en poche parce qu'il leur répugnait d'en manger, mais ils firent mine de le cacher par respect comme une relique aussi. Pendant le repas, François parla des anges qui n'ont rien à faire que de louer Dieu. Après les grâces, le cardinal le prit à part. « Frère, gronda-t-il, comment avez-vous pu me faire cet affront ?»« Je vous ai fait honneur, » dit François. « J'ai porté sur votre table le pain des anges, le pain mendié. » Quelques jours plus tard, il commença, avec le cardinal, à revoir la règle. Grand combat entre ces deux hommes. Pour François, le plus rude de sa vie. Mourir serait moins dur. Monseigneur est un homme intelligent. Le monde ne restera pas semblable à ce qu'il est, dit-il. Tout change, royaume, mœurs et coutumes. Mais l'Église domine tout, debout toujours, phare dans la nuit. Votre règle doit être la lampe qui l'éclaire par le dedans. Mais dès lors, telle que la voici, elle n'est pas bonne. Il faudrait d'abord savoir vous oublier, vous-même, et ce temps-ci, et moi, et tout le monde. Elle doit servir à tous les temps. Dieu me l'a dictée. Dieu veut la voir observée à la lettre, sans commentaire. Dieu me l'a dit. Précisément parce que Dieu y est. Sinon, je déposerai la plume. Monseigneur jeta sa plume loin de lui. Mais la forme ne vaut rien. Ce ne sont que des paroles, éminence. Dieu me l'a dicté ainsi. Les paroles ne sont que les coquilles de la vérité. Si Dieu inspire la même chose à deux hommes, ils l'exprimeront chacun différemment, quoique l'esprit soit pareil. Cette forme-ci n'est pas bonne. Elle ne convient pas à l'avenir. Votre ordre doit continuer à soutenir l'Église. Or, il ne le pourra que par une règle solide et claire. Par exemple, vous avez tort de dire dans votre règle que les frères, s'ils trouvent quelque part le Saint-Sacrement dans un tabernacle en mauvais état, doivent en avertir les prêtres. Cela amènerait des frottements et des disputes entre le clergé et les moines. Un frère qui s'apercevrait par hasard d'une négligence prendra bien l'initiative d'y remédier. Mais si vous l'ordonnez par écrit, on en abusera. Est-ce vrai, oui ou non ? François se tut. Monseigneur biffa la phrase relative au Saint-Sacrement. Le noviciat est obligatoire, vous savez pourquoi. Notre Seigneur a-t-il exigé un noviciat de ceux qui venaient à lui ? L'Église baptise quiconque veut se faire chrétien, le plus grand païen même. Un ordre religieux est autre chose. Silence. Monseigneur prit la plume et écrivit une ligne où il était question de noviciat obligatoire. Ainsi, chaque point à son tour fut pesé et moulu. Mais la lutte la plus vive s'engagea autour du refrain évangélique. Lorsque les frères voyagent par le monde, ils n'emporteront rien, ni sac, ni monnaie, ni pain, etc. Un vrai duel entre Monseigneur et François. Un frère mineur ne peut rien posséder que sa harpe, dit François. Sa harpe, c'est son âme qui doit louer Dieu sans cesse. Je ne demande pas mieux, dit Monseigneur avec vivacité, mais bien des hommes ne sont pas capables de cela. Que cela entre dans un autre ordre, cria François aussi vivement, qui ne vienne pas souiller le nôtre. Bien, c'est pourquoi j'ai tant insisté sur le noviciat qui peut les mettre à l'épreuve. Votre ordre doit être en état de pouvoir accueillir quiconque s'y sentirait. Qu'ils viennent, point n'est besoin de noviciat pour cela. Les mauvais partiront d'eux-mêmes. Ainsi, pendant des jours parfois, des discussions éclataient. Le poverello ne lâchait pas le refrain. Je ne peux pas. C'est de là qu'est né l'ordre. C'en est l'âme, la lumière. Enlevez-le. L'ordre s'effondre. Je ne l'enlève pas. Je l'exprime autrement. Je le dis de telle façon que frère Antoine puisse emporter en tournée de mission ses livres d'études où il trouve plus d'inspiration pour combattre les hérétiques. Posséder un objet importe peu, pourvu qu'on n'y soit pas attaché. Qui vit dans l'abondance vit selon elle. Le désir de l'abondance peut exister aussi dans l'absolue pauvreté. Allons, frère François, si nous écrivons. Les frères ne prennent rien en propriété personnelle, ni maison, ni rien, et comme des pèlerins, ils servent le Seigneur dans la pauvreté et l'humilité. Si nous écrivons qu'ils peuvent en toute confiance et sans vergogne quêter les aumônes. Si nous écrivons que c'est là le sommet de la plus haute pauvreté, que les frères doivent se contenter de vêtements rapiécés, qui ne peuvent pas accepter d'argent. Si nous écrivons que partout où ils entreront, ils doivent dire « paix sur cette maison » et se montrer aimables et modestes. Si nous écrivons que les illettrés ne doivent pas se soucier de devenir savants et que tous doivent prier pour leurs ennemis. N'est-ce pas de l'Évangile, cela ? Les mains du cardinal tremblaient, tout son corps tremblait. François dit avec calme, « Dieu m'a dicté la vieille règle. Mais le pape remplace Dieu. Vive le pape. Écoutez le don. Le pape ne peut nous refuser l'Évangile. » Monseigneur était à bout, découragé. « Je ne continue plus, cria-t-il. Voici des années que cela dure. Il faut que cela finisse. » Faites ce que vous voudrez. Vivez selon l'Évangile. Cela, les hérétiques le prétendent aussi. L'Évangile, ils en ont la bouche pleine. Avant un an, votre ordre sera un nid d'hérésie. Nous prierons, dit François. Nous prierons. Dieu, que cela ne soit pas. Croyez-vous ou non à la sagesse divine de l'Église? Si oui, il faut l'écouter. Sinon, votre place n'est pas ici. Qui n'est pas avec moi est contre moi. Dès là, nous n'avons plus rien à nous dire. Alors François pleura à petits sanglots et comme un petit enfant, il demanda « Pourquoi l'Église ne peut-elle pas accepter la règle telle que Dieu me l'a dictée ?» Parce que dans sa sagesse, l'Église distingue la loi de la personne. Monseigneur se fit doux, prit la main du poverello. « Voyons, François, au fond, nous sommes d'accord. L'expression que je donne à votre règle est un peu plus sobre, voilà tout. Allez-vous, pour un sentiment personnel, au sujet de cette forme, laisser sombrer votre ordre? Ayez pitié de ces milliers de frères, quelque divisés qu'ils soient. Ils sont tous venus à vous avec la meilleure intention. Rassemblez-les. Songez aux frères qui viendront quand nous serons déjà morts depuis longtemps. Songez au siècle futur. Soyez vous-même le signe de réconciliation. » Monseigneur lui tenait la main. François la dégagea, alla se mettre à genoux. Immobile comme une statue, il tenait fermé ses yeux purulents. Il écoutait Dieu dans son cœur. Monseigneur écoutait François et fixait sur lui ses yeux pâles et bleus, attendant la réponse. Comme cela durait longtemps. Il attendait les mains tremblantes. Quel martyr pour François! Brisé en éclats, pour lui et pour ses frères, sa chère règle, la voie royale de la croix, l'état de perfection, la clé du paradis et l'avant-goût de la vie éternelle. Cette règle, il avait pour elle vécu et souffert. Il en avait entraîné tant d'autres par elle, comme des papillons vers la flamme, et on la lui ravageait. Il frémit. « Pour la paix entre les petits frères, supplia Monseigneur, la paix !» Et François rouvrit les yeux, et les deux mains en ciel, il gémit. « Que Dieu me pardonne ma faiblesse, c'est pour les petits frères. » Monseigneur alla à son pupitre, barra d'une grosse rature le refrain évangélique. « Quand ils voyageront par le monde, ils n'emporteront rien. » Il glissa sa main dans ses longs cheveux blancs et un frisson courut sur sa figure pâle. Son départ de Rome fut une vraie fuite dans la tempête et la pluie. Il avait dormi au palais du cardinal, quelque part dans une tour. Et là, les démons l'avaient si affreusement tourmenté et maltraité qu'il ne pouvait s'empêcher de croire que Dieu les lui avait envoyés pour le punir de son orgueil. « Et quoi ? » dit-il à Frère Léon. « Je réside au palais d'un cardinal, tandis que mes frères occupent de pauvres cellules. C'est un scandale et qui doit finir. Maintenant que la règle est approuvée et que chaque frère sait comment il doit vivre, je n'ai plus rien à faire dans ce monde que d'être un exemple. Aucun ne peut, à cause de moi, trouver un prétexte pour faire défection. Je veux être un modèle de frère mineur et, pour le reste, ne rien désirer que Dieu. » Pendant plus de 2 ans, il avait traîné le fardeau de cette règle comme un boulet de fer. Son cœur s'en était assombri. La règle était approuvée, mutilée sans doute, mais François se consolait. Les bons, ils trouveraient quand même un régal spirituel. Quant aux mauvais, c'était leur affaire. Et l'Église était sauvée. Il se sentait délivré, tranquille, et son âme rouvrait les ailes. Le vent et le soleil les faisaient vibrer. Un oiseau, longtemps prisonnier, rendu à l'air libre. L'alouette, à nouveau, jaillit frémissante droit vers le ciel. « Frère Léon, à nos ermitages, dit-il, à nos petits nids d'évangile. Retournons à Fonte Colombo et à l'ermitage de Grèce où nous fêterons Noël. » Et ils chantèrent. Ils pataugeaient dans la boue, la pluie les inondait, mais malgré la pluie, ils s'agenouillèrent dans la boue et dirent paisiblement leur prière. « L'âme aussi doit se nourrir, dit-il. » Ils dégoûtaient comme des torchons qu'on retire d'un seau d'eau. Le vent froid soufflant des montagnes faisait claquer leurs bures. Leurs côtes étaient comme barreaux de glace. Ils gravirent la montagne parmi les rocs. Sur les sommets brillait déjà de la neige fraîche. Thank you. Chers amis, nous nous arrêtons là pour aujourd'hui, mais nous retrouverons Saint François très bientôt.